Escale, un magazine hebdomadaire de la Radio des Nations Unies. Escale.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, au micro Jérôme Longuet. Cette semaine, Escale s'intéresse aux centaines d'enfants, voire beaucoup plus, recrutés au Mali dans les rangs d'Al-Qaïda au Maghreb islamique, dans Sardine, du Moujaou et du MNLA, le Mouvement National pour la Libération de l'Azawad. C'est ce qu'affirme Où sont-ils ? La situation des enfants dans le conflit armé au Mali, le rapport du réseau d'ONG Watchlist on Children and Armed Conflict, présenté fin juin au siège de l'ONU à New York. Ce rapport, le tout premier sur les enfants et le conflit qui a éclaté au Mali en janvier 2012, recense de nombreux cas d'enrôlement d'enfants, de meurtres, de mutilations, de viols et d'autres violences sexuelles, sans compter les attaques contre les établissements scolaires. Il contient aussi des recommandations, notamment pour la MINUSMA, la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, déployée à partir du 1er juillet. Pour en savoir plus, Christina Silvero a rencontré Layal Sarrou, chercheuse au sein du réseau d'ONG et auteure du rapport qui a collecté elle-même sur place au Mali la plupart des informations.
Ce qu'on a trouvé, c'est que les garçons, en particulier entre les âges de 8 ans jusqu'à 17 ans, étaient recrutés par les groupes armés, notamment le MNLA, ACMI, le Moujaou et Ansardine. Ils étaient recrutés, utilisés par ces quatre groupes de toutes sortes de manières, mais ça inclut aussi dans les combats. Ils étaient formés dans les armes, utilisés dans les combats, comme on dit. Et en particulier, j'ai parlé pas avec les enfants eux-mêmes, parce qu'ils étaient avec des groupes armés, on n'a pas eu des contacts avec eux, mais j'ai parlé avec les membres du comité du 20 les enfants. Donc avec des parents, avec des professeurs, des membres élus. Donc les membres du comité qui ont habité pendant le conflit au nord, qui ont vu les enfants, qui ont vu la manière dont les enfants étaient recrutés et utilisés par les groupes armés. Et c'était par ces conversations que j'ai appris que la chose qui était la plus concernante pour les membres du comité, c'était l'indoctrination qu'ils ont vue des enfants par les groupes. Disons, les groupes, en particulier ACMI, le Mujahideen, et Ansardine. Ils pratiquent une interprétation d'islam et de la charia qui est rejetée par la majorité des Maliens. Et ils ont eu peur que les petits-enfants étaient indoctrinés par ces groupes pour pratiquer, pour croire cette version d'islam qu'ils rejettent, qui n'est pas en accord avec leur famille, avec comment leur famille pratique l'islam, comment leur communauté pratique l'islam. Donc, ce qu'on a trouvé qui était peut-être pas assez bien compris dans la situation, c'est qu'on a ces enfants, ces garçons qui étaient indoctrinés, qui, quand ils sortent des groupes, ont besoin d'une manière d'attention, de réhabilitation très particulière pour les aider à réintégrer d'une manière propre, d'une manière stable, d'une manière qu'ils eux-mêmes vont être soignés et acceptés par les communautés.
Alors, tout d'abord, quels sont les groupes qui, justement, recrutent ces enfants et qui sont actifs, qui ont été nommés dans la récolte de données que vous avez faite?
On a nommé dans le rapport, on a concentré sur les violations commises par quatre groupes. Donc, le Mouvement National de Libération d'Azawad, le MNLA, le ACMI, l'Al-Qaïda dans le Maghreb islamique, le Moujaou, le Mouvement pour Unicité et Djihad dans l'Afrique de l'Ouest, et Ansardine. Quand on parle des violations qui ont un lien à la religion, à l'islam et l'interprétation des groupes, on parle en particulier de Ansardine, ACMI et Moujaou, et pas le MNLA. Mais en général, on a trouvé que c'est ces quatre groupes qui ont recruté des enfants, qui ont commis des violences sexuelles, qui ont attaqué, détruit, pillé les écoles.
Donc en fait, tout sauf la composante religieuse s'applique aux quatre groupes?
Oui. Oui, c'est ça. Et la composante religieuse, c'est plus importante, disons, pour la question des d'indoctrination des garçons. Et aussi, on parle dans la section de violences sexuelles, il y a les viols, mais il y a aussi des mariages forcés des petites filles aux membres des groupes. Et c'est les trois en ce cas aussi.
D'après le rapport, d'après les données que vous avez récoltées, est-ce que le conflit armé affecte les filles et les garçons différemment?
Oui et non. Donc, il y a des manières que c'est la même pour les deux, comme la situation des écoles. Le système d'éducation était complètement détruit dans le nord du Mali. Les professeurs ont fui, les étudiants sont fuis avec leurs familles. Les écoles, les structures eux-mêmes étaient pillées, saccagées, brûlées, détruites dans les bombardements. Donc, le système d'éducation était complètement détruit. Il faut le reconstruire. Donc, de cette manière, ça impacte les garçons et les filles, les deux.
Parce qu'en fait, il faut le dire, le Mali avait quand même atteint ses objectifs de développement pour l'éducation et avait donc aussi une parité dans la scolarisation des enfants?
Oui, c'est ça, en particulier dans le premier cycle. donc pour les garçons, les filles dans le premier cycle. Et donc, ce qui est vraiment triste, c'est que tous ces efforts et tout ce travail qui était bien fait en avant, donc oui, dans ce cas, c'est les garçons, les filles qui sont les deux impactés par l'arrêt de l'éducation, du système d'éducation au Nord.
Mais est-ce qu'il y a des aspects qui affectent plutôt les garçons alors?
Oui, au Mali, c'est vraiment la situation de recrutement des enfants. Il y a des autres conflits, des autres pays où les garçons et les filles sont recrutés. Au Mali, ce n'était pas comme ça, c'était seulement les garçons. C'est vraiment des petits garçons, des garçons même de l'âge de 8 ans, 8, 9, 10 ans, qui étaient recrutés, qui étaient formés dans des armes, qui portent des uniformes qui sont trop grands pour eux, qui essaient de porter des armes qui sont trop grandes, trop lourdes, et ils n'étaient pas même capables de les lever. Et ces enfants étaient utilisés dans des combats, mais aussi pour faire des petites tâches pour les groupes, pour aller chercher des petites choses, pour bailler, pour cuisiner, de toutes sortes de manières. Et les groupes étaient très intelligents dans la façon de leur recrutement. Ils ont pris davantage de la situation, de la disparition de la communauté au Nord. Donc, ils ont fait des offres de l'argent dont l'économie au Nord, c'était complètement
Donc c'est une opportunité d'emploi pour eux?
Oui, pour eux ou pour leur famille. C'est une opportunité, ils ont promis aux garçons et à leur famille d'avoir une éducation. Comme on a dit déjà que les écoles étaient fermées, donc ils ont dit « si tu nous donnes tes garçons, on va aller avoir des classes ». Mais c'était des classes en fait dans leur interprétation d'islam. Donc c'est comme ça qu'on parle d'indoctrination.
Alors, que s'est-il passé pour les garçons? Et est-ce qu'ils sont, eux, réintégrés dans la société? Vous avez parlé d'un décalage, d'indoctrination, etc. Que se passe-t-il avec les garçons?
C'est une très bonne question et c'est ça le titre du rapport, c'est ça l'inspiration. Où sont-ils là? C'est parce que pour la majorité des garçons, on ne sait pas où sont-ils maintenant. Les groupes armés, comme j'ai dit, sont disparus avant l'arrivée des Français, des Tchadiens, des forces armées maliennes. Et les enfants ont disparu aussi. Avant, la présence des enfants parmi les groupes, c'était quelque chose de très visible. C'était eux à les checkpoints, c'était eux qui, comme j'ai dit, qui font des petites tâches. Les membres du communauté au Nord, ils ont vu les enfants toujours, ils étaient toujours là. Et après ça, les groupes sont disparus et les enfants ont disparu aussi. Et donc moi, quand j'étais là pour faire mes recherches, mais aussi les acteurs, le gouvernement, les humanitaires qui sont là, qui travaillent dans la protection, les protections de l'enfant, c'est la question que tout le monde demande. Donc, alors, où sont-ils ces enfants? Parce qu'il y avait, si on prend des estimations qu'on a eues, des centaines d'enfants parmi ces groupes. Et après, rien. De ce qu'on sait, il y avait quelques enfants qui étaient utilisés dans les combats. Les militaires ont dit qu'ils ont rencontré des enfants. On a entendu dans quelques villes, dans quelques villages, que les membres du communauté ont vu les enfants qui s'enfuient avec les groupes armés. Mais en général, ces centaines d'enfants, on ne sait pas où sont-ils. On pense que c'est très possible qu'il y avait plusieurs qui sont échappés pendant les conflits, pendant les hostilités. On pense maintenant qu'ils se cachent, parce qu'on connaît que maintenant, il y a cette situation des tensions ethniques. Dans Mali, il y a des attaques contre des gens qui sont perçus d'être en support des groupes armés pendant l'année passée. Et donc, on pense qu'il y a vraiment une groupe des enfants qui sont échappés des groupes qui se cachent peut-être avec leur famille ou non, qui sont fuis dans les autres pays voisins, peut-être au camp de réfugiés, mais on ne sait pas vraiment où sont ces enfants. Et ces enfants ont besoin d'un appui, ils ont besoin d'une prise en charge pour les aider, pour les soigner s'ils sont blessés. Mais on ne connaît pas où sont-ils.
Est-ce qu'il y a des enfants, par contre, qui sont revenus, des garçons? Vous avez dit que les communautés se plaignaient qu'il y avait eu une indoctrination. Alors, c'est forcément qu'ils ont eu un contact à nouveau avec ces enfants. Quelles sont les expériences qu'on vous a racontées par rapport à cette indoctrination? Et est-ce que ces enfants ont évolué? Ils ont pu être réintégrés dans leur milieu social?
Jusqu'à maintenant, la question de réintégration, c'est un peu précoce aussi, parce qu'on n'est pas arrivé là jusqu'à... Ça prend du temps. Mais de ce qui était raconté à moi, dans une communauté où il y avait des enfants, des garçons qui ont échappé des groupes pendant les combats. Ils sont retournés chez eux, chez leur famille, qui dit qu'ils ne les reconnaissent plus. Ils sont si changés, si affectés par ce qu'ils ont subi avec les groupes, qu'ils ne les reconnaissent pas, les enfants qui retournent. Et il y avait une mère en particulier qui me parle d'un enfant qu'elle connaît, qui m'a dit, mais l'enfant que j'ai connu hier, qui jouait avec mes enfants, qui écoute la musique, qui retourne maintenant, il dit que la musique est haram, que tout le que l'homme blanc fait est haram, que si tu tues un miscréant, tu auras une place en paradis. Donc, c'était des paroles d'un petit enfant, un enfant de 10 ans, 11 ans. Si tu le prends dans le contexte de Mali, d'un pays en particulier où la musique est tellement forte, c'est un aspect de culture qui est célébré partout au monde. Et si un enfant de cet âge vient et dit que non, la musique est haram. Donc, haram, c'est une chose qui n'est pas permise dans l'islam. C'est quelque chose d'assez puissant, ça. Donc, oui, c'est ça, c'est le cas des enfants. Il y a une indoctrination, il y a des problèmes de réintégration parce que c'est certainement pas ça les pensées de leur famille et de leur communauté. On est en train, comme communauté humanitaire maintenant, de monter ces programmes. Et c'est une partie du plaidoyer que je fais maintenant, des activités de plaidoyer, c'est pour attirer l'attention sur ça et dire quand on monte ces programmes qu'il faut inclure des éléments qui vont adresser cette question en particulier. Parce que oui, on peut donner des appuis psychosociaux, des formations économiques et tout ça, mais si les pensées des enfants restent assez différentes de la communauté, leur intégration ne sera jamais complète parce qu'elles vont rester toujours un peu à l'extérieur. Et c'est ça le danger si on réfléchit à ce qui peut arriver au futur. On ne veut pas que le cycle de violence, ça continue. Et donc, il faut adresser ces choses maintenant pour assurer que la réintégration, c'est vraiment bien fait et complet. Nyaka kuodoe na dunya madaliko e tuluka kumodome na dutulu madaliko me sina kasina dake kuofoka siba.
Alors justement, on arrive sur les conclusions, les recommandations du rapport. Alors, ce rapport est publié alors que la MINUSMA s'apprête à déployer ses casques bleus. À quoi appelle Watchlist par rapport à la MINUSMA ? Quel rôle souhaiterait voir Watchlist par rapport justement à toute cette problématique soulevée par rapport aux enfants et dans le contexte de ce conflit armé ?
Comme vous avez dit, on a plusieurs recommandations. Il y a deux parties du MINUSMA. Il y a les casques bleus, puis il y a la section civile. Les casques bleus et les autres militaires au Mali, ils ont une très grande rôle à jouer pour la protection de l'enfant. Et c'est ça, avec les recommandations, ce qu'on veut dire, c'est que tout le monde a un rôle à jouer dans la protection de l'enfant, en particulier dans les contextes de conflit. Eh bien, pour les casques bleus, c'est probablement eux qui seront les premiers points de contact avec les enfants qui étaient avec les groupes armés. S'il fait un patrouille et un enfant se présente et dit « Moi, j'étais échappé d'une groupe, ces situations s'arrivent. Et donc, si on demande des casques bleus de jouer cette rôle protective pour la population civile puis aussi les enfants, il faut les former. Il faut les former pour savoir comment réagir dans ces situations. Et donc, ce qu'on demande, c'est d'avoir des propres formations pour tous ceux qui deviennent des casques bleus, et en particulier des formations compréhensives dans la protection d'enfants parce que ce sont des cas particuliers qu'ils vont rencontrer. Il faut savoir comment réagir et quoi faire.
Comment est-ce qu'on réagit? Quelles sont les idées qu'il faudrait véhiculer dans ces formations?
Premièrement, vraiment, que les enfants dans ces situations sont les victimes. Et il faut garder ça en tête, même s'ils sont dans des combats et un soldat rencontre un enfant, même un enfant armé. C'est une situation de combat, mais il y a des choses qu'il peut faire pour protéger l'enfant, pour réagir dans cette situation. Et même pour un soldat, c'est une situation difficile parce qu'il s'est formé jusqu'à ce moment pour combattre contre les adultes et pas les enfants. Donc, si tu es là dans les conflits et tout à coup, il y a un enfant de 12 ans avant de toi avec une arme, c'est un peu choquant. Donc, il y a des formations de comment réagir, mais aussi il y a des protocoles qui peuvent être développés. Si tu rencontres un enfant armé, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a certaines protections et obligations sur la loi internationale.
Mais ça veut dire quoi concrètement?
Concrètement, ça veut dire pour les enfants, la meilleure chose à faire, c'est de transférer les enfants directement à des humanitaires et des personnes civiles qui ont des programmes pour la prise en charge et les soigner. Mais ça veut dire concrètement, si pendant cette période de transfert, il faut séparer les enfants qui sont capturés des adultes. Il ne faut pas les interroger. Il y a des certaines circonstances de leur détention et de leur demander des questions, mais il ne faut pas les interroger dans la même manière que les adultes, ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont vu et tout ça. Donc,
est-ce que vous appelez à ce qu'il y ait des conseillers spéciaux justement formés dans la protection de l'enfant qui soient présents lors de ces interrogations, par exemple?
Ce qu'on dit vraiment, c'est qu'il ne faut pas les interroger. Il faut les prendre et directement les transférer au gouvernement, mais aussi aux civils, aux les humanitaires, qui peuvent leur donner des appuis psychosociaux et des traitements médicaux s'ils sont blessés. Et il y a des manières en particulier pour apprendre ce qu'ils ont vécu avec les groupes et de leur demander certaines questions. Il y a aussi des choses qu'on ne demande pas aux enfants. Donc, ces protocoles peuvent être développés et il faut former aussi tous les soldats et tous les casques bleus dans ce cas sur les protocoles pour qu'ils savent qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire.
Voilà, et c'est avec Laïa Sarrou, chercheuse au sein du réseau d'ONG Watchlist sur les enfants et les conflits armés, que se referme ce magazine Escale, un magazine préparé cette semaine par Christina Silvero et présenté par Jérôme Longuet. Un magazine de la Radio des Nations Unies à retrouver sur l'internet en tapant radio.un.org/fr. Merci de votre fidélité et rendez-vous à la semaine prochaine.